nombreux bienfaits de la présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Magnifique, merci beaucoup. Je fais juste un tout petit résumé pour rattacher à ce qu'on a vu. Vous savez qu'il y a de nombreuses facettes à la vie de prière. Et notamment, la prière, c'est pas seulement fermer les yeux et parler à Dieu, ça en fait partie. Mais c'est réellement ce moment où mon âme chargée, qui peut être accaparée par tellement de choses ici-bas, je vais pouvoir décharger mon âme, pouvoir la vider à ses pieds. C'est une facette de la prière, vider à ses pieds ce qui accapare mon âme, ce qui l'alourdit, ce qui l'écrase, ce qui rend la marche difficile. Une brebis, on l'a vu, une brebis n'est pas faite pour porter quoi que ce soit. On n'a jamais vu une brebis dans toute l'histoire de l'humanité. Jamais on a chargé une brebis. Une brebis ne porte rien. Une brebis, elle est soit dans les bras de son berger, dans un contact d'amour, soit sur ses épaules. Merci Seigneur, quand j'ai plus la force de marcher, il me porte. Ou alors par moment, la brebis, elle suit son berger, elle est avec le troupeau. Mais la brebis est faite pour ne rien porter du tout. Et la prière, c'est ce moment béni où mon âme déchargée va pouvoir s'élever. Vous savez, un petit peu comme, je ne vous avais pas donné cette image, un peu comme les montgolfières. Vous avez besoin, mon âme, elle a besoin de légèreté, elle a besoin de s'élever. La prière, c'est ce moment béni où j'ai un contact, un cœur à cœur, où je rencontre mon Père Céleste, où j'ai vraiment cette intimité avec lui. Et pour que la montgolfière, elle monte, il faut simplement enlever du lest, il faut enlever tout ce qui alourdit, il faut savoir se décharger littéralement, on l'avait vu et Fred l'a redit, il faut savoir rejeter tout ça sur Jésus et puis ensuite faire le plein de lui, se vider mais faire le plein de lui et que mon âme soit oxygénée. Psaume 86, Seigneur à toi j'élève mon âme et il y a ce contact béni entre mon Dieu et moi dans la prière. Et puis on a vu que dans ces moments-là, on est sur toute une série de prières qu'on peut résumer ainsi. Dans les psaumes, ce sont des prières théocentrées, qui ne sont pas centrées sur l'ego, c'est pas égocentré, je le dis pas au sens péjoratif, mais pas des prières égocentrées, c'est-à-dire centrées sur le moi, le besoin, le circonstanciel, le terrestre, mais des prières qui restent sans cesse, malgré les circonstances, qui reste focalisé sur le Seigneur, des prières qui sont théocentrées. Et nous n'oublions pas que malgré la multitude de nos besoins matériels, terrestres et spirituels, notre plus grand besoin, bien-aimé, reste toujours le Seigneur lui-même. C'est lui ton plus grand besoin. Et que tu aies obtenu, pas obtenu, ce qu'il fait, ce qu'il fera, quand, comment, maintenant, plus tard, d'une façon ou d'une autre, c'est jamais ça la vraie question. Il est fidèle, il pourvoit. La vraie question, c'est quand tu pries, est-ce que quand tu ressors, ton âme, elle est légère? Est-ce que tu t'es déchargé? Est-ce que tu as eu ce cœur à cœur, ce face à face, cette intimité, un moment de révélation, de connexion particulière avec ton Seigneur, ce qui fait que quand tu ressors, comme David, même si rien ne va à l'extérieur, même si rien ne va dans ta famille, rien ne va dans tes circonstances, à l'intérieur, là, tu as ce souffle béni de l'Esprit qui t'a emmené plus loin et qui t'a revivifié. Et on avait vu la semaine dernière le refuge de sa présence avec quelques bienfaits spécifiques pour nos âmes. Psaume 36, une âme qui trouve le refuge nécessaire, une âme rassasiée, désaltérée, jamais à court de ressources, on va le revoir ce soir, une âme toujours éclairée par sa lumière, toujours soutenue et assurée du secours divin. Et dans le psaume 84, on regarde ensemble d'autres facettes, d'autres aspects de la présence de Dieu. Donc on le lit maintenant, ce psaume 84, vraiment, au chef des chantres, on le lit en entier, c'est pas très long, puis c'est tellement magnifique. Sur la guitite des fils de Corée, les fils de Corée étaient des musiciens, pour résumer rapidement, et c'était les gardiens du temple, 1 Chronique, chapitre 6, chapitre 9, etc. Je ne fais pas une étude là-dessus. Les fils de Corée étaient des musiciens et les gardiens du temple. Psaume, que tes demeures sont aimables, éternelles des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi, mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie même la couvre aussi de bénédictions. Sources au pluriel, bénédictions au pluriel. Verset 8, leur force augmente. Pendant la marche, ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob, toi qui es notre bouclier. Vois, ô Dieu, regarde la face de celui que tu as oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Voilà encore un psaume, une pépite, un psaume magnifique, c'est une perle. Évidemment, dans l'écriture, c'est un psaume, frères et sœurs, qui exalte de façon particulière, qui exalte la présence de Dieu, qui en démontre la valeur et qui va bien sûr apporter différents points qu'on va voir ensemble, différents bienfaits de la présence de Dieu. Verset 2, tes demeures. Verset 3, les parvis de l'Éternel. Verset 4, tes autels. Verset 5, ta maison. Tous ces termes, en réalité, on le sait dans le langage imagé. Enfin, ce n'est pas imagé, pour eux, c'était leur seule connexion à la présence de Dieu. Ils n'avaient pas la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit ne vivait pas en eux. Ils n'avaient pas accès à la présence de Dieu. Le voile n'était pas déchiré dans le temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Donc, ils n'avaient pas accès. C'était simplement... Quand on était certain, de temps en temps, le ciel était ouvert. Il y avait une incursion divine pour saisir un auteur, pour apporter une révélation. Il y avait des interventions divines et de temps en temps, certains étaient conviés à entrer dans la présence même de Dieu, mais c'était extrêmement codifié. N'importe qui ne pouvait pas y entrer de façon générale. L'accès à la présence de Dieu est fermé, la route est barrée. On n'entre pas, sauf sur invitation particulière, exclusive de Dieu, pour un moment très précis et selon un protocole qui est pardon. Mais Dieu avait fait exprès. Mais lourd au possible, parce que Dieu est un Dieu saint, il est redoutable, sa sainteté, sa grandeur, sa gloire. L'être humain doit comprendre dans cette première alliance quelle est sa nature à lui et quelle est la grandeur du Dieu qu'il va invoquer. Et le seul endroit où ils peuvent rencontrer Dieu un peu de temps en temps, de façon très sporadique, très ponctuelle, sous condition, c'est dans le temple. Et chaque fois que vous avez demeure, parvis, autel, maison, etc., sanctuaire, tabernacle, c'était juste une façon pour eux, parce qu'ils n'avaient que ça, c'était une façon d'exprimer leur amour et leur désir d'aller plus loin dans la présence de Dieu. Quand David dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel », il ne voulait pas dresser son lit de camp là comme ça dans le bâtiment, je ne sais pas quoi. Il voulait réellement demeurer dans le temple parce qu'il savait que c'était là la présence de Dieu. Et c'était une façon pour eux de dire « Seigneur, on voudrait tellement vivre plus de ta présence ». Et ce après quoi eux, ils soupiraient, eh bien nous, c'est un accès libre, total, permanent. La route est largement grande ouverte, dégagée, le voile a été déchiré et dans l'épître aux Hébreux retentit un énorme cri à l'ensemble de tous les disciples nés de nouveau de tous les temps, de toutes les générations, sous tous les cieux, de tous les siècles, depuis que Jésus est mort et ressuscité. Le grand cri retentit « Approchez-vous avec assurance, la route est ouverte, il faut y aller ». Sans être méchant, bien-aimé, je crois que si les croyants de l'ancienne alliance, pardonnez-moi, vu comment ils ont galéré pour avoir ça de la présence de Dieu de temps en temps, et de nous voir, nous, avec la route qu'on a devant nous, pardon, c'est pas méchant, mais le peu qu'on en profite, j'ai des moments, il devrait venir nous voir, je pense qu'il viendrait nous secourir, il dit, mais tu te rends pas compte de ce que tu as, mais vas-y, mais fonce, qu'est-ce que tu perds ton temps là, vas-y, Steph, fonce. Moi, j'ai soupiré, j'ai demandé, j'ai supplié, j'ai crié pour avoir la présence de Dieu. Jésus est sur terre, il te dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert. Mais moi, Stéphane, j'ai vécu toute ma vie, David, les fils de Corée, Ésaïe, ils ont tous vécu avec un ciel de plomb, avec un ciel fermé, sous des chapes de condamnation, avec une lourdeur protocolaire pour le sacrifice animal qui était interminable. Et nous, on a l'Esprit Saint en nous, et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chaque instant de chaque minute, j'ai un accès permanent à la présence de Dieu. Je vous dis franchement, l'ancienne alliance, ça ne m'aurait pas intéressé. Hein. Qu'est-ce que je fais de cette présence? Eux, ils, c'était clair, ils exaltent la présence de Dieu, ils manifestent ce désir ardent. Et ils avaient compris, c'est comme s'ils me disaient, au verset 3, « Mon âme soupire et languit, ce que je désire plus que tout, c'est la présence de Dieu, mon cœur, mon être intérieur. » Verset 3, « Et ma chair, même mon corps peut vivre, ressentir sa présence, même mon corps se languit de toi, Seigneur, c'est mon être tout entier qui te désire. » Et cette image est magnifique, tout comme le passereau a une maison, tout comme l'hirondelle a un nid, mais moi je suis fait pour la présence de Dieu. Et tant que je ne suis pas pleinement dans sa présence et que sa présence n'est pas pleinement en moi, ben je ne suis pas moi, je ne suis pas... Il me manque tellement, il me manque énormément. Je suis fait pour vivre, pour m'épanouir dans la présence de Dieu. C'est là que je suis épanoui en sécurité et comblé, comme les petits que l'hirondelle a mis dans son nid. Là, dans la présence de Dieu, mon être intérieur, là et là seulement, je suis bien. Heureux, verset 5, heureux ceux qui habitent ta maison. C'est une façon pour eux de dire, mais Seigneur, notre plus grand bonheur, merci pour tout ce que tu es capable de faire, merci pour tout ce que tu es capable de donner. Mais Seigneur, mon plus grand bonheur, c'est toi, c'est ta présence. Et c'est là, c'est dans ce chemin-là qu'il faut que j'aille, que j'avance, que je grandisse, que je m'épanouisse. C'est là qu'il faut que je grandisse, c'est là qu'il faut que je progresse. Et tous ces auteurs, après bien sûr avoir exalté cette présence de Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, qui jouissent de ta présence, heureux ceux qui placent en toi leur appui, verset 6, heureux l'homme qui se confie en toi, verset 13. En réalité, ces deux versets ici, le 6 et le 13, encadrent cinq grands bienfaits de la présence de Dieu. On l'a lu et on va le voir ensemble. Ils vont décrire ce qui se passe pour ceux qui savent s'appuyer, appuyer, puiser, piéter, creuser, approfondir, ressource. Pour ceux qui savent puiser dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Pour ceux qui font vraiment, verset 13, vraiment confiance à Dieu, pour ceux qui puisent en lui, ceux qui se confient en lui, qu'est-ce qui va réellement se passer? Cinq choses extrêmement importantes pour chacun de nos cœurs et chacune de nos vies. La première chose, c'est qu'ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. De la même façon que la colonne de nuée la journée et la colonne de feu la nuit conduisait le peuple dans le désert, elle symbolisait la présence de Dieu, pas à l'intérieur du cœur du peuple, simplement à côté, à proximité du peuple. Mais nous, c'est à l'intérieur, merci Seigneur, mais dans le désert, je dirais ainsi, vous voyez, dans le désert de ce monde, parfois dans le désert de nos âmes, dans le désert des circonstances, quand, parce que la vie est faite de choix, il y a des intersections, il y a des pièges, il y a des méandres, il y a des dangers, on est là, on ne sait pas, Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, Seigneur, est-ce que c'est ton plan, c'est pas ton plan, ta volonté, pas ta volonté? Géographiquement, je dois aller où, Seigneur? Professionnellement, je vais faire quoi? Dans mes études, je vais faire quoi? Sentimentalement, Seigneur, je vais faire quoi? Ce garçon, je lui dis oui, je lui dis non, cette fille, je lui dis oui, je lui dis non. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Comment je me positionne? Il y a tellement, frères et sœurs, dans nos... de domaines où la vraie question, c'est pas qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas choisir, qu'est-ce que tu vas dire. La vraie question et la priorité absolue de tout, c'est quelle est la véritable mesure de présence de Dieu dans ton cœur? Parce que quand tu auras la dimension de la présence de Dieu telle que tu dois la voir, il y a des choses qui vont te paraître des évidences, des chemins tout tracés, des chemins tout tracés. C'est clair, c'est limpide, c'est évident. Je sais qui je suis, je sais ce que Dieu ne veut pas que je dise. Je sais ce qu'il veut que je dise, je sais ce qu'il ne veut pas que je fasse, je sais ce qu'il veut que je fasse. Et c'est clair, c'est limpide. Et peu importe le domaine, alors bien sûr là, je vous ai parlé de circonstances. Il y a deux semaines, on avait parlé de David, qui dans un moment d'égarement, parce qu'il a cédé sous la pression d'une seule pensée, est parti 16 mois, dans 16 mois d'égarement, 16 mois de compromis chez le roi Achish parmi les Philistins. Il s'est réfugié chez l'ennemi et puis malheureusement, ce que l'ennemi lui a offert le faux refuge qui était de Cyclague, offert d'un côté, a été pris par les Amalécites de l'autre, et le diable lui a pris 10 fois de la main droite ce qu'il lui avait donné de la main gauche. Et David, même s'il revient à Dieu par l'éphod, en réalité, David, il aurait pu s'éviter ça. Malheureusement, il est passé par ce chemin-là, il a fait ce choix. Et pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé en compromis chez Achish? Parce qu'à ce moment-là, la présence de Dieu n'était plus sa priorité. Dans son cœur, il n'y avait plus de chemin tout tracé. Il n'y avait plus d'évidence. Et c'est pour ça que, pardonnez-moi l'expression, il est parti en vrille. Et ce n'est pas seulement dans les circonstances, des chemins tout tracés, ce n'est pas seulement dans les circonstances. Les chemins tout tracés, c'est le chemin, la marche étant une image, la marche chrétienne étant une image de ma façon de vivre, de me comporter. Ce chemin sont aussi des chemins spirituels, des chemins tout tracés. Il n'y a pas à tergiverser. Je sais que j'ai besoin de la grâce de Dieu pour pardonner, c'est pas simple, il y a des choses. Mais il n'y a pas à tergiverser, il y a des chemins tout tracés. Et le Seigneur me conduit dans des chemins spirituels, dans des chemins de pardon, dans des chemins de réconciliation. Il m'amène dans des chemins de paix. On l'avait vu, la paix surnaturelle de Christ gardera vos cœurs et vos pensées. Dans des chemins de joie, heureux verset 5, heureux verset 6, heureux verset 13. Il m'emmènera dans une vie bien positionnée. Dans des sentiers de justice, dans sa bonté, sa miséricorde, sa patience. Mon Dieu, donne-moi ta patience. Des chemins tout tracés. Il y a tellement, autant d'un point de vue circonstanciel que spirituel, tellement de possibilités que des fois... Mais la vraie question, c'est pas qu'est-ce que je vais faire, pas faire, choisir, pas choisir. La vraie question, c'est quelle est la vraie mesure de présence de Dieu en moi ? Parce que ceux qui savent réellement vivre dans la présence de Dieu et qui en ont compris l'accès et qui la vivent réellement dans leur être intérieur, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, des évidences. Merci Seigneur. La vie devient beaucoup plus facile comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, vous-même, même si vous n'êtes pas d'accord, ça ne change rien. La Bible a toujours raison. Moi, je n'ai pas toujours raison. N'écoutez pas tout ce que je vous dis. Faites comme les chrétiens de Béret, acte 17. Allez chaque jour... dans les Écritures, vérifiez si ce que je vous dis est exact. Vérifiez chaque jour les Écritures. Ne me faites pas confiance. Allez vérifier chaque jour si ce qu'on vous dit est exact. Mais de toute façon, la Bible a toujours raison et vous le savez très bien. Et quelle qualité de vie. Merci Seigneur. Et puis, il y a aussi autre chose que va produire la présence de Dieu parce qu'elle est surnaturelle. Elle est extraterrestre. Elle est miraculeuse. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, un jour, un professeur dans une grande faculté de théologie en Amérique, je ne sais plus le nom, un enseignant, un théologien, demandait à la faculté de théologie, à ses étudiants qui étaient là, il leur disait, à votre avis, quelle est la plus grande vallée de ce monde? Puis certains commencent à répondre, ah ben c'est le Grand Canyon, ah ben c'est peut-être tel lieu, tel endroit, tel pays, et chacun réfléchit, cherche et se demande, quelle est la vallée la plus grande, la plus profonde de ce monde? Et le professeur leur dit non. La vallée la plus profonde de ce monde, c'est une vallée spirituelle. Elle s'appelle Baca. Et Baca, ça signifie la vallée des larmes. Parce que des millions et des millions y passent chaque jour. Les enfants de Dieu ne sont pas exempts, ne sont pas immunisés contre la vallée des larmes. Ça ne me fait pas plaisir. Mais il n'est pas dit « si un jour tu passes par la vallée des larmes ». Il est dit « lorsqu'il passe par la vallée des larmes ». Mais c'est là qu'ils vont faire la différence. Comment ? Par cette présence extraordinaire de Dieu en eux, lorsqu'il traverse la vallée des larmes, il la transforme en un lieu plein de sources, S pluriel, et de bénédictions, S pluriel. Quoi qu'ils traversent, ils ne sont pas terrassés, mais ils ont la capacité, pas par eux-mêmes, pas par moi, mais nous sommes rendus capables, pour être juste, nous sommes rendus capables de transformer le paysage et de changer la donne. Là où nous sommes rendus capables, surnaturellement rendus capables. Alors oui, je sais et j'aime cette facette de mon Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui calme une tempête, qui me sort d'un désert et qui va agir d'une façon ou d'une autre dans les circonstances. Et le Seigneur, oui, il délivre, il exauce, il libère, il intervient. Oui, il a fixé des limites à toute épreuve. Merci Seigneur. Mais il est aussi le Dieu qui veut que j'apprenne à me reposer, à dormir avec lui dans les tempêtes. Il n'est pas le Dieu qui va faire en sorte que je ne pleure jamais. Il est le Dieu qui va faire en sorte que dans la vallée des larmes, quelque chose, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un de surpuissant qui s'appelle le Saint-Esprit et la parole en moi vont m'amener à transformer le paysage. Dieu veut que j'apprenne soit à dormir dans la barque. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu dors? Est-ce que tu dors bien quand ça va mal autour? Il veut t'apprendre à d'autres moments à marcher sur l'eau. Il veut que tu transformes le paysage, que tu changes la donne par la puissance du Saint-Esprit qui vit en moi. Jésus a dit, Jean 7, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Là, il n'est pas question à faire ou intervenir depuis le ciel jusqu'à la terre. C'est en cela que très souvent, on est resté très vétéro-testamentaire, on est resté ancienne alliance dans notre façon de raisonner. La question n'est pas de ce que Dieu va faire encore en termes d'incursion céleste sur la terre. C'est pas ça. C'est vraiment de pouvoir transformer celui qui croit en moi. Des fleuves, dit Jésus, des fleuves au pluriel, jailliront de son sein, de son être intérieur, jusque dans la vie éternelle. Ça vient, ça sort de là. Parce que la source, mon bien-aimé, ma sœur, mon frère, la source, elle est en toi. La source, tu peux dire amen. Tu la sens, tu la sens pas, tu l'as pas encore exploitée à son plein potentiel. Tu es né de nouveau. La source, elle est en toi. Elle y est. Et c'est là que ça doit grandir. Un lieu, dit le psalmiste, disent les fils de Corée, plein de sources au pluriel, parce que la source de vie est en moi. Et ça ne va pas nécessairement tomber du ciel, ça peut jaillir de mon cœur. Je voudrais te dire quelque chose ce soir de la part du Seigneur. Peu importe ce que tu attends de Dieu, si Dieu en ta faveur n'a pas encore fait un miracle, si Dieu depuis le temps que tu demandes quelque chose pour tel domaine ou tel domaine, ou pour quelqu'un, et qu'une situation bloque et qu'elle n'avance pas, et que ça ne se décante pas, peu importe, c'est long, c'est dur, tu passes du temps, ça, tu demandes, il n'y a rien qui se passe. La Bible est claire, frères et sœurs. Peut-être que, c'est pas peut-être, c'est sûr. Si Dieu ne fait pas un miracle pour toi, c'est que c'est toi le miracle. C'est toi le miracle. Joseph n'est jamais rentré d'Égypte. Il est resté en déportation. Et Dieu l'a rendu fécond dans le pays de son affliction. C'était lui le miracle. Tu peux être un miracle. Tu es le miracle dans ta famille. Tu es le miracle comme mon frère quand tu vas à l'hôpital. Puis qu'on te dit comment tu fais pour être paisible comme ça, avec ce que t'as. Ah, mais en moi, j'ai l'esprit du Dieu Tout-Puissant qui vit. Amen. Et si Dieu ne t'a pas encore donné un miracle, c'est parce que c'est toi le miracle. Il faut que tu regardes les choses différemment. Daniel n'est jamais rentré de Babylone. Les royaumes, depuis Nebuchadnezzar jusqu'à Darius, tous les royaumes, les uns après les autres, Chaldéens, Empire Médo-Perse, etc., tous se sont renversés et effondrés les uns après les autres. Daniel est resté là, comme au firmament. Il a tout traversé. Il n'est jamais... Le peuple est rentré de Babylone, de sa déportation. Il est rentré à Jérusalem. Daniel n'est jamais rentré. Il est resté en déportation toute sa vie. Mais regardez la vie et les révélations qu'il a vécues et qu'il a reçues. Ozias, un roi qui a été son règne, les 50 années de son règne, parce que les deux dernières années, malheureusement, sont catastrophiques. Encore un cas mal fini, ça c'est un autre sujet. 50 ans sur 52, 50 ans, un règne extraordinaire. Toute la vie d'Ozias, ce roi extraordinaire, se révèle en une seule phrase. Aussi longtemps que Ozias a appliqué son cœur à chercher Dieu, Dieu lui a donné la réussite. Et Ozias a été pendant un demi-siècle un roi extrêmement puissant. Il a été confronté à des déserts terribles, mais il n'est pas mort dans le désert. Il a transformé le paysage. Il a transformé, et dans le désert, il a creusé et il a changé le paysage. Et il a amené pour le peuple des sources là où il n'y avait plus rien à espérer. Des ressources extraordinaires. Autant d'hommes dans la parole qu'en dehors de la parole, que toi ou moi sommes appelés là où nous sommes. Il y a tout ce qu'il faut en toi, mon bien-aimé. Nous sommes appelés à faire la différence. Tu peux faire la différence sur ton lieu de travail. Tu peux faire la différence dans ta famille, sans aucun... Il y a tout ce qu'il faut dans la vie du Saint-Esprit, dans la parole. Et puis, le Seigneur va raccorder un renouvellement miraculeux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai remarqué très souvent, la marche logique des choses. Plus je cours, plus je suis fatigué. Parce que là, c'est une vérité de la palisse, c'est pas compliqué. Plus je marche... plus je me fatigue. Parce que ça, c'est humain. C'est quand on marche avec nos propres forces, quand on essaye de vivre la vie chrétienne, de la produire ou de la reproduire par nous-mêmes, par nos propres efforts. On essaye de changer les autres, on essaye de se changer soi-même, on essaye, on met plein de bonne volonté, mais on s'use, on se fatigue. Et la réalité, c'est que plus on marche, plus on se fatigue. Et on peut être fatigué, usé par les combats, fatigué par un tel, fatigué par une situation, fatigué par la maladie, fatigué par les coups, par la pression, par les combats. Des fois, on est même fatigué dans l'église, dans notre propre service. Mais la présence de Dieu, parce qu'elle est miraculeuse, parce qu'elle est surnaturelle, va être une puissance qui va aller à contre-courant. Et alors que je devrais me lasser, me fatiguer, et il y a des moments où je suis lassé, je suis fatigué, il y a des moments où je n'ai pas envie, mais quand je suis dans la présence de mon Dieu, sa présence ranime ma foi, et alors que je n'avais pas envie, eh ben je sors, j'ai les mêmes églises, les mêmes combats, les mêmes luttes, les mêmes difficultés, les mêmes collègues, la même famille, les mêmes enfants, j'ai le même tout, mais quand je ressors, c'est ce que fait la présence de Dieu. Elle me renouvelle constamment, un renouvellement permanent et inépuisable. Et ça, c'est, je peux vous en parler des heures, je peux vous mettre des tas de textes. Frères et sœurs, il faut le vivre. Soit on revient à l'essentiel, soit on apprend à cultiver, à approfondir cet essentiel. Mais vous savez, de toute façon, je ne vous apprends rien, plus la nuit spirituelle, plus la nuit dans ce monde va s'épaissir, plus les ténèbres vont s'appesantir sur cette terre, plus le diable va déverser son fleuve de saleté et d'immondices, et on sent que ça monte en pression. Tout est en train de se mettre en place pour la fin des temps. Tout est en train de se mettre en place pour la venue de ce faux Christ, de cette abomination qui sera l'Antichrist. Tout est en train de se mettre en place pour la grande prostituée montée sur le dragon, cette religion mondiale qui massacrera les saints de Jésus. Tout est en train de se mettre en place spirituellement, d'un point de vue aussi géographique, politique. Tout est en train de se mettre en place. Et vous savez que plus la nuit va spirituellement s'épaissir, plus la vraie question sera, est-ce que les disciples de la fin des temps seront, oui ou non, authentiquement remplis du Saint-Esprit, remplis de la présence de Dieu? Parce que jusqu'à un certain point, la présence de Dieu me faisait du bien et elle me suffisait. Mais on avance dans la nuit, il me faudra plus de lumière. Il me faudra une dimension de foi différente. Il me faudra des ressources différentes. Il me faudra un renouvellement. C'est pas que j'ai jamais rien vécu avec Dieu. C'est que plus on avance dans cette nuit, plus je suis dans un système qui me dit que « Steph, tu peux pas vivre aujourd'hui avec la foi d'hier. Tu vivras pas demain avec la présence de Dieu d'aujourd'hui. Tu vivras pas après-demain avec les ressources de demain. » Il faudra absolument que, et c'est ça la vraie question, d'aller le plus loin possible, parce que la présence de Dieu est réellement une puissance qui m'amène à vivre une vie à contre-courant. Leur force augmente pendant la marche. Une protection, je passe très vite là-dessus, avant de faire le point 5 qui est très court aussi, et de conclure et de prier. La protection, toi qui es notre bouclier, verset 10, c'est ça, et au verset 12, tu es aussi un bouclier, tu es un soleil. Et c'est pas, vous avez compris, quand Dieu est mon bouclier, on parle de la protection de notre âme. Pour que notre âme ne s'effondre pas avec, comme on l'a dit, ce qui la tire vers le bas, ce qui l'écrase. Il n'est pas question, pardonnez-moi de le dire ainsi, Dieu n'est pas un gris-gris protecteur. Nous ne sommes pas dans la superstition évangélique, nous sommes dans la foi. Et la foi qui vient de Jésus l'auteur, dont il est aussi le consommateur et le rémunérateur, cette foi de multiples facettes. Des fois le Seigneur me garde miraculeusement dans des circonstances. Amen. Mais il y a des moments où il ne me garde pas. Parce que la fournaise, comme Anania et ses amis, les amis de Daniel, il va falloir y aller. Parce que la vallée des larmes, il va falloir la traverser. Parce que la vallée de l'ombre de la mort, il va falloir la traverser. Psaume 27, David dit, au jour du malheur, il me protégera. Au jour du malheur, c'est-à-dire que mon âme, elle est gardée, elle est préservée. Pas au sens où il m'arrive jamais rien, d'accord? Mais au sens où là, dans l'être intérieur, je suis gardé de ne pas m'effondrer avec les circonstances qui m'environnent. Et cette présence de Dieu qui me protège, qui me construit, qui me fortifie, elle me porte au-dessus de ce que je dois traverser. Elle me fait comme Pierre, elle me fait marcher sur la mer déchaînée. Efficacité, je termine avec ça. Mieux vaut, disent les fils de Corée, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. » Alors, c'est pas qu'ils n'avaient pas envie d'y aller plus loin. Bien sûr qu'ils soupirent à aller plus loin dans la présence de Dieu. C'est pas qu'ils veulent rester à l'écart. C'est pas qu'ils veulent se restreindre, mais c'est une façon de dire, c'est une image pour dire même le peu de la présence de Dieu. En d'autres termes, des miettes, comme disait la femme syrophénicienne. Seigneur, même les miettes qui tombent de ta table vaudront tellement plus. Même ces miettes qui tombent, le peu de ta présence va faire tellement plus que moi quand je vais m'agiter, quand je vais essayer, quand je vais peut-être même chercher à faire des compromis pour essayer de... Je vais obtenir tellement plus en beaucoup moins de temps dans la présence de Dieu. Ça, de la présence de Dieu, va produire des choses extraordinaires que tout ce que je pourrais chercher ailleurs dans ce monde pendant toute une vie. C'est la présence de Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho. Rien ni personne d'autre. L'arche, symbole de la présence de Dieu, était parfaitement au centre du cortège. Et cette présence de Dieu, c'est la présence de Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho. Lorsque David, on en a reparlé, est parti se réfugier, ce faux refuge, 16 mois d'égarement chez Achish, pendant 16 mois il a cherché, pendant 16 mois il a essayé. Mais quand il est revenu avec l'éphod, il a manifesté son désir avec un cœur repentant de revenir à Dieu et de consulter Dieu. Je ne vous l'avais pas dit, mais j'ai retrouvé. En 2 jours, en seulement 2 jours, le peu de la présence de Dieu qu'il avait retrouvé, ça ne faisait pas 50 ans qu'il était revenu à la présence de Dieu. Certes, ça faisait 16 mois qu'il s'était égaré. Et il n'est pas revenu 16 mois pour enfin avoir peut-être un petit peu quelque chose de Dieu. Non, non, 16 mois d'égarement, il a tout perdu. Il revient à Dieu, à l'essentiel par sa présence, en 2 jours, seulement 2 jours. Le Seigneur lui permet de récupérer tout ce que l'ennemi lui avait, enfin, non, l'ennemi, il a bon dos, hein. Tout ce que David s'est laissé dérober par sa faute pendant 16 mois. 2 jours, il a tout récupéré. Mes frères et sœurs, la présence de Dieu, quand on en fait vraiment notre priorité, quand on la prend très au sérieux, elle produit en nous et aussi à l'extérieur infiniment plus que ce que l'on peut penser ou imaginer. Mon efficacité, c'est la présence de Dieu. Il y aura toujours cet aspect supérieur, prééminent, suffisant de la parole de Dieu, de son esprit, de sa présence. Elle est ma source, elle est ma ressource, elle est ma force par excellence. Alors peu importe ce soir, les uns et les autres, de quoi nous pourrions avoir besoin. As-tu besoin de direction ? La vraie question, c'est de savoir, est-ce que tu vas être dans la présence de Dieu comme tu dois y être ? Parce que viendront en toi des évidences. Des ressources miraculeuses, si tu traverses ce soir peut-être encore une vallée de larmes, le Seigneur t'accordera des sources, est-ce des bénédictions, est-ce pour que tu, toi, changes la donne là où tu es, parce que c'est toi le miracle. Le renouvellement, leur force augmente pendant la marche. As-tu des raisons d'être lassé ? As-tu des raisons d'être fatigué ? As-tu envie peut-être de tout envoyer balader ? Ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Même les plus grands dans la parole, ils ont eu envie de tout lâcher. Leur force augmente pendant la marche. Ça, c'est le miracle de la présence de Dieu, la protection de mon cœur et l'efficacité. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Seigneur, tu peux faire tellement plus avec un peu de ta présence que moi, toute ma vie sans toi. Amen. On se recueille, bien-aimés. Alléluia. Et on prie le Maître.